ça va être compliqué de l'avoir, c'est Gigi, donc lui aussi un bon joueur de Ligue 1. Non, et Vegno en latéral gauche.
J'aurais pas non plus.
Ensuite, du coup, Vegno, vous avez déjà dit Rongier, donc dans la paire du milieu de terrain, ouais, avec Touré. Donc là aussi, je pense que
pas trop connu. Plus compliqué quand même.
Et par contre, devant, on a une paire de neufs qui est assez quand même assez connue.
Mais Salah.
Non, pas encore.
Pas encore. Il y a pas encore Salah.
On a un Islandais qui avait beaucoup parlé du coup à l'Euro 2016.
En nom compliqué là.
Ouais, voilà. Ouf, ouais, c'est toujours ça, faut se rappeler des.
Sur la difficulté. Bon, je vais vous le dire, c'est Sigthorsson.
Ah ouais, de ouf.
Et il est accompagné d'un Français qui a fait beaucoup parler pour un but avec Nantes contre Paris, et surtout il a joué après à Caen.
Évident. Ou
Un peu quand même. Quand t'as suivi Nantes à cette époque-là, tu connais un peu genre le joueur.
Faut que je t'écrase ma mémoire, mec.
Son prénom c'est Yacine.
Ah, c'est... Ah, putain!
Merde. Mais c'est quoi son... Attends, c'est... Putain, il est consultant en plus maintenant.
C'est...
Bah...
Ah oui, mais attends.
Bamou.
Voilà.
Yacine Bamou.
Wow. Ouais, c'est vraiment dans les... Ouais. Faut creuser.
Faut creuser, ouais.
Moi, à l'époque, déjà, je regardais très peu de foot à mon petit âge. Et en plus, le FC Nantes, très peu pour moi. Donc...
Voilà. Bon, et le milieu gauche c'était Adrian. Voilà, c'était
C'est vrai qu'il manquait le milieu gauche.
Mmh. Ouais, et le coach à l'époque c'était Michel Desacarian, toujours.
Et puis c'était Stéphane Moulin.
Voilà.
Exactement. La légende Stéphane Moulin.
Exactement.
Ouais. Merci beaucoup pour ce petit jeu Paul, et puis il est 21h01 et puis on va vous laisser avec la Ligue des Champions désormais qui a déjà débuté. Bonne soirée à vous et puis on se dit à la semaine prochaine.
Un bel exemple de réussite, monsieur s'est fait tout seul, a bien placé ses billes et ne s'en cache pas. C'est d'ailleurs son histoire préférée. Monsieur a l'arrogance des nouveaux riches, mais dans son nouveau milieu, ça passe bien. Ça passe pour de l'ambition, il n'y a rien de mal à ça, oh non, bien au contraire. Monsieur Flambe a le talent en toute saison, il a la forme et s'entraîne au meilleur club de la ville. 30 000 à l'année, hors frais de fonctionnement, il en est actionnaire et voit ça comme une petite consécration. Vêtue d'un tailleur de marque italienne, 6 000, madame quant à elle ne travaille pas, mais madame est débordée. La bonne s'occupe des gosses, fait à bouffer, le service et le ménage, mais madame ne s'en sort toujours pas. Faut dire que la maison est grande et madame doit la meubler. Madame peine avec la styliste que lui a conseillé sa chère voisine au gala de bienfaisance d'une marque d'ordinateur leader sur le marché. 20 000. Le soir, une fois rentré du travail, la tête pleine de réunions et de repas d'affaires harassants, pleine de cruciales décisions à prendre et de chiffres colossaux en jeu, monsieur retrouve madame. Les enfants ont fait leurs devoirs et sont couchés, il est 21h. Monsieur se sert un verre et veut se détendre. Comme d'habitude, il passe au petit salon, mais fait tomber son verre en chemin. Au bruit du verre cassé sur le marbre d'Italie, la soubrette, 600 et c'est un bon prix, sort aussitôt de la cuisine pour nettoyer ça rapidement et retourne à sa place, ni vu ni connu. À cet instant précis, il dit avec satisfaction à sa douce moitié siliconée en lui tapant les fesses. T'as vu que j'avais raison, les Éthiopiennes c'est une affaire, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est efficace.
salut.
Salut.
Ah, Patrice, t'es parmi nous ou pas là?
Bah, on m'entend pas.
Si, ça y est.
Si, moi je l'entends bien.
Ouais. Donc, bonsoir.
Bonsoir Patrice.
C'est lui qui t'imaginait un petit peu à la bourre là, hein. Ce soir, c'est sportif.
Ah, c'est Running Man ce
et
soir.
Et voilà, on a couru pour arriver jusqu'au studio d'Imaginaire. On suit un peu l'actu ciné en fait, enfin, film de genre, hein. Les gars, vous avez profité du partenariat de Radio G avec le pâté pour aller voir Running Man. Fait, ouais.
Running Man 2025.
Voilà, 2025. Donc, dans cette émission, on commencera, on reviendra aux sources.
Mmh. Oui.
On va commencer par parler de la nouvelle de Robert Sheckley.
Oui. Mmh.
Patrice, tu as relu tes classiques.
On part directement là-dessus, tu nous mets même
si,
pas
si,
le
si,
thème.
T'inquiète, il y aura de la musique. Voilà, Robert Sheckley, Le Prix du Danger, le film d'Yves Boisset, après Le Running Man
de 1987.
Le roman de Stephen King et puis le film avec Schwarzenegger. Ah. Et puis ensuite, on parlera donc de cette nouveauté cinéma. Il passe encore là.
Ouais.
Et puis ensuite, on parlera un livre-jeu sur le thème un peu la chasse à l'homme devant les caméras.
Alors, c'est pas une chasse à l'homme à proprement
parler. Ça s'appelle
parler.
Chasse à l'homme. C'est
ça s'appelle chasse à l'homme.
Mais ce n'est pas une chasse à l'homme.
Ouais. C'en est une, mais pas vraiment. Mais je vous en dirai plus par
la suite. Ok. Et puis moi, je vous parlerai un peu Battle Royale, des jeux de rôle comme ça, comme ce Deathmatch Island. J'ai quatre jeux de rôle dans la thématique. Et donc on commence tout de suite. Alors hop, faut que je retrouve la piste. On va parler du prix du danger. C'est ça?
Ouais.
Petit générique.
Le prix du danger. Le prix du danger. Le prix du danger. Le prix du danger.
Gagne en écoutant Imaginaire ce soir dans le 101.5. La vie.
Oui, c'est ça. On gagne à être connu.
Vladimir Kosma, donc, hein, qui a composé ce générique d'une émission de télé dans un film.
Oui. Alors, en fait, si on veut parler du thème de ce soir, c'est un peu les jeux du cirque à travers les médias modernes, hein, avec tout ce que ça comporte de puissance et de fausseté. Bon, alors, bien entendu, dans Gladiator, le présentateur n'a pas besoin de micro, hein. Mais on peut se rappeler aussi Les Chasses du Comte Zaroff, Hunger Games, ouais. Battle Royale, La Dixième Victime.
The Most Dangerous Game, une nouvelle hein, de 1923, je crois. Les Chasses du Comte Zaroff.
Donc, la nouvelle de Sheckley, The Price of Perils, le prix du danger, qui a été publiée en 1958 dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction, et en France dans la revue Fiction en août 1958. Et republié, c'est une nouvelle, hein, republié de nombreuses fois dans divers recueils aux titres variés, forcément, parce que suivant les recueils, les gens donnent des titres différents. Donc chez Opta, chez Gélu, Livre de Poche, et finalement chez Argile en 2022.
Voilà.
Ouais. Alors en fait, dans cette nouvelle qui est relativement courte, alors en livre de poche ça fait une quinzaine de pages, donc c'est vraiment très très court. Le gars, il fait ça pour de l'argent. Il a pas d'autre motivation. Hein. Il est pas obligé. On lui fait valoir qu'un monsieur tout le monde aura plus d'audience que des gros bras, etc. Tout ça, mais il a pas vraiment d'aptitude au combat, à la différence du Roman King, parce que le gars est un peu plus costaud.
Oui, de choix.
Alors le présentateur, comme toujours, et de la télé, est complètement l'enthousiaste incarné. Et dans ce jeu où il doit échapper à des tueurs, il y a des bons samaritains, une partie de la population qui est censée l'aider, mais d'autres non.
Ça va un peu de Joker, quoi.
Ouais, c'est un peu c'est ça. Et comme dans toutes les émissions, enfin, je vais pas déflorer tous les sujets, mais on sait bien que tout ça c'est un peu truqué quand même. Hein. Et là, la triche dans cette nouvelle, c'est que le programme doit durer mais être spectaculaire. Et alors, je vous lis un tout petit extrait de ce texte. À un moment, il est sauvé par quelqu'un qui croit être un bon samaritain, mais qui est en fait une femme qui fait partie du projet.
Ouais, je m'en rappelle.
Et le gars lui dit, mais je suis sauvé par le programme. Bien déduit, dit-elle. Mais pourquoi? Alors, il s'appelle Raider. Hein. Écoutez, Raider, c'est une émission coûteuse. Il faut que nous donnions un bon spectacle. Si notre niveau baisse, nous nous retrouverons tous dans la rue à vendre des sucettes. Et vous ne nous êtes d'aucune aide. Quoi? Pourquoi? Parce que vous êtes en dessous de tout, rétorqua amèrement la jeune femme. Vous êtes un fiasco, une nullité. Qu'est-ce que vous cherchez? À vous suicider? Vous n'avez donc rien appris sur ce qu'il faut faire pour survivre? Oh, je fais de mon mieux. Les Thompson auraient pu vous descendre. Les Thompson, c'est les tueurs qui lui cherchent. Hein, auraient pu vous descendre une douzaine de fois jusqu'à présent. Nous leur avions recommandé d'y aller doucement, de faire traîner les choses. Seulement, on ne peut pas rater indéfiniment une cible d'1m80 de haut. Les Thompson se montrent compréhensibles, mais ils ne peuvent tricher que jusqu'à un certain point. Si je n'étais pas intervenu, ils auraient été obligés de vous tuer, que l'émission soit en cours ou non. Donc là, on voit bien que le gars de cette histoire, bah, c'est pas un Schwarzenegger, c'est vraiment un gars qu'on a mis dans le sujet et puis qui dit, bah, je vais peut-être gagner un peu d'argent. Voilà. Et la fin, que je vous dirai pas, enfin, sur cette nouvelle, reste un petit peu ambiguë, bien qu'elle rappelle quand même la fin du film de Yves Boisset. En 1970, la nouvelle est adaptée pour la première fois au cinéma par un réalisateur allemand, Tom Thöle, pour un téléfilm, Das Millionenspiel. Bon,
le jeu à plusieurs millions. Ouais.
Avec Jörg Pleva, Dieter Thomas Eck, que personne ne connaît.
On embrasse au passage.
Et Suzanne Roquette. Alors, je me suis renseigné, mais Suzanne Roquette, elle a quand même tourné 22 épisodes de Cosmos 1999. Dont je vous parlerai une autre fois, parce que c'est une
vieille série. C'était un pseudo, peut-être, Suzanne Roquette, alors.
Je sais pas. Bon, si vous voulez absolument trouver ce DVD en allemand, on le trouve non sous-titré, sauf peut-être en anglais. Bon, j'ai pas vraiment creusé plus. Passons au film qu'Yves Boisset a fait à partir de cette nouvelle. En gros, il dit lui-même qu'il a adapté 5 pages de nouvelles en 100 pages de scénario. Donc, on retrouve quand même dans son film l'essentiel du récit de Robert Sheckley, mais bien entendu bien augmenté. Hein. Dans ce film, le héros qui est Gérald Lanvin cherche à améliorer son niveau de vie et celui de sa femme, Gabrielle Lazur. Ce qui introduit, alors que cela n'est pas dans la nouvelle, la notion de gagner de l'argent pour sa famille, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le roman de Stephen King. Et alors, pour la petite histoire, Jacques Martin, Léon Zitrone, Michel Drucker ont cru se reconnaître dans le personnage du présentateur joué par Michel Piccoli, oui, qui est vraiment assez excellent. Alors voilà pour la partie Le Prix du Danger, et on verra comment par la suite Running Man fait appel à ces thèmes-là.
Mais dans Le Prix du Danger, Patrice, sur le film, le héros incarné par Gérard Lanvin fait quand même assez costaud, même il passe des épreuves, donc là il est beaucoup plus sportif, plus aguerri que le personnage
que dans la nouvelle. Un peu plus, oui, mais pas autant que Schwarzenegger.
Oui.
Juste quelques petites précisions. Alors, ce recueil de nouvelles de Robert Sheckley, sorti en février 2022 chez Argile, ça s'appelle Le Temps des Retrouvailles. Et on trouve aussi une autre nouvelle qu'il avait écrite 5 ans avant, qui s'appelait La 7e Victime. Et qui racontait déjà une histoire de chasse à l'homme. Et il y avait un film qui en avait été tiré en 1965 d'Elio Petri, mais qui s'appelle La 10e Victime, parce que La 7e Victime s'était déjà pris au cinéma, avec dans les rôles principaux Ursula Andress et Marcello Mastroianni. où il avait inversé aussi. Normalement, c'était un homme qui devait chasser une femme, et là, c'est l'inverse.
Mais dans cette histoire-là, c'est pas un contre tous, c'est tous les joueurs qui doivent chacun tuer l'autre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, il me semble me rappeler.
Et alors, il faut arriver à un total de 10. Hein. Il y a une histoire de 10 tueurs contre 10 victimes, je ne sais plus trop. Et sinon, je voulais aussi signaler un roman que j'ai lu assez récemment, Vigilance, de Robert Jackson Bennett, dans la collection Une Heure Lumière, qu'on aime bien ici, au Bélial. Où cette fois on suit le producteur d'un show télévisé qui s'appelle Vigilance, où on lâche trois tireurs en fait dans la foule, mais on sait à quelle heure et à peu près dans quel endroit. Enfin, on le sait en regardant l'émission en fait. Mais si vous civils arrivez à tuer ces personnes, ben vous empochez une partie du pactole. Donc c'est aussi une réflexion sur la violence et les armes dans la civilisation américaine moderne même. On y parle pas mal de racisme, mais cette fois on suit surtout le producteur de l'émission et on est un petit peu dans toutes les coulisses de ce truc. On revient à Running Man, donc le film avec Schwarzenegger et donc bande originale par Harold Faltermeyer. Un petit peu d'aérobic dans notre émission. Si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez faire les mêmes mouvements que nous. Ça bosse.
On s'entraîne.
J'espère que vous avez bien regardé tous nos mouvements, que vous êtes en train de refaire la même chose chez vous. Parce que, on vous le répète, on est sur YouTube, hein, Radio G, point d'exclamation. Comme ça que vous nous retrouvez. On est aussi sur le chat, sur le site radio-g.fr. Cette musique, c'est la musique d'une pub ou qu'on voit une intermission un peu dans le programme du Running Man. Dans le film, où on voit
quand il est chez une des, enfin celle qui a conçu une musique.
Ah oui, c'est avant l'émission. C'est l'émission d'aérobic qui est avant l'émission du Running Man. Donc émission présentée par un ancien gagnant, il me semble, du Running Man, qui n'affrontera pas Schwarzenegger à la fin. Enfin, ne l'affrontera pas pour de vrai, parce que il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans ce qu'on vous montre à la télé américaine.
Bah, donc. Pas seulement américaine, je pense. Donc, alors, si on part sur Running Man, il faut probablement d'abord parler du roman de Stephen King, qui est sur un thème identique, donc d'une émission de télé où quelqu'un est poursuivi par des tueurs en direct. Mais le roman de Stephen King est beaucoup plus désespéré, j'ai trouvé, que la nouvelle de Shakley, qui était presque un petit peu satirique, on va dire.
Shakley était un auteur de science-fiction, on va dire, de l'âge d'or de la science-fiction américaine, mais il y avait pas mal d'humour. Il était un peu considéré comme un auteur drôle.
Oui, il a fait des trucs assez un peu grinçants, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, dans le roman de Stephen King, là, le héros s'engage pour de l'argent, effectivement, mais pour subvenir aux besoins de sa famille, contrairement à la nouvelle de Shakley. Et le héros, il est un petit peu différent. C'est un colérique, mais pas vraiment un combattant. C'est plutôt le désespoir qui va l'amener à lui donner sa force, quoi. Alors, comme c'est un roman, forcément, ça laisse le temps de créer pas mal de péripéties. Et les chapitres dans le roman sont présentés sous forme de compte à rebours de 100 à 0. Donc, je ne vous dis pas ce qui se passe à 0, c'est très différent entre le roman et le film de 88 et de 2025. Contrairement au Prix du Danger, où les organisateurs font sciemment durer le spectacle, le héros de Running Man, lui, il utilise la ruse, en fait. Et l'aide de ceux qui luttent contre le système et le bluff. Donc là, on a vraiment un esprit un petit peu différent de la nouvelle. Et la triche par l'émission de télé n'est utilisée que pour travestir les propos du héros. Pas seulement pour faire durer. C'est lui, en fait, dans le roman, c'est vraiment lui qui fait durer parce qu'il est rusé. Et il fait des trucs et des fois il s'en tire un peu par... Et puis il tombe sur des gens qui veulent l'aider parce qu'ils sont contre le système, mais ouais. Voilà. Il est pas nul comme on le présente dans la nouvelle de Sheckley. Donc voilà, il y a déjà de l'action et ce compte à rebours est extrêmement bien fait. Je pourrais d'ailleurs, pour vous donner un peu un exemple de la différence de ton... juste avant le combat, il est bien entendu sur le plateau de télé, et puis il y a le présentateur là qui dit « Parlez plus fort, monsieur Richards !» Alors lui, c'est lui le héros. Dit Thompson avec juste ce qu'il fallait de mépris dans la voix. « Personne ne vous fera de mal. » Pas encore, du moins. De nouveau, des cris hystériques fusèrent. Richards releva brusquement la tête. Les spectateurs se turent comme s'ils avaient reçu une gifle en plein visage. Des femmes le regardaient avec une expression de terreur presque sexuelle. Des hommes le fixaient avec un rictus meurtrier. « Pourriture ! » cria-t-il. « Si vous tenez tant à voir le sang couler, qu'est-ce que vous attendez pour vous entretuer ?» Et un peu plus loin, le présentateur dit « Combien de temps pensez-vous tenir, monsieur Richards ?»« Je compte aller jusqu'au bout des 30 jours, » dit Richards avec un calme glacial. « Je ne crois pas que vous ayez quelqu'un d'assez fort pour m'avoir. » Nouveau hurlement, poing brandi, quelqu'un lança une tomate. Les bras levés, Bobby Thompson cria pour couvrir le tumulte. Sur ces paroles de défi purement gratuites, monsieur Richards va nous quitter. Demain, à midi précis, la chasse commence. N'oubliez pas son visage. Il sera peut-être à côté de vous, dans un pneumo, dans un jet, dans une salle de 3D, où vous le croiserez dans la rue. Ce soir, il est à Harding, demain, New York, Boise, Albuquerque, Columbus, caché derrière votre maison. « Le dénoncerez-vous ? » Un cri assourdissant surgit de mille gosiers. « Oui !» Donc là, je trouve que quand même, on voit dans la rédaction qu'il y a quand même une... Et tout le roman est comme ça. Hein. C'est vraiment très très fort dans la tension à la fois psychologique et bien entendu dans les péripéties qui lui arrivent au fur et à mesure, les personnes qui vont l'aider, pas parce que c'est des bons samaritains, mais parce qu'ils sont contre le système. Donc ça, je recommande quand même de lire... Et c'est la fin est vraiment du grand Stephen King. Il y a un coup de bluff absolument extraordinaire. Alors après, il y a eu
Le roman donc vient d'être réédité chez J'ai lu. Hein. J'ai vu que
octobre
2025.
C'est le livre de poche.
Ouais, livre de poche.
Donc il vient d'être édité forcément à cause du film, je suppose. Ouais. Donc en fait, au départ, il faut savoir que le roman a été publié. Stephen King n'avait pas réussi à le faire publier. Donc il a pris un pseudo.
Ah oui,
Richard Bachman.
C'est vrai.
Et il l'a publié à l'époque sous ce pseudo.
Et d'ailleurs, dans le film, c'est mis, dans les crédits, ça s'inspire du livre de Richard Bachman.
Ouais. C'est ça, exactement. Alors après, en 1988, donc on arrive au film, il y a eu un film, Running Man, de Paul Michael Glaser. Mais je dois dire, en dehors de l'aspect jeu télé, pour moi, ça a vraiment peu de rapport ni avec le roman, ni avec la nouvelle. Je trouve que le héros, d'abord, il est contraint de participer parce qu'il tombe dans un piège. Voilà, c'est un policier, puis
Alors il est choisi, en fait, par le présentateur de l'émission.
Ouais. Alors, producteur et présentateur, il tient les deux rôles.
Présentateur,
en fait.
C'est vrai. Ouais. Qui le voit en fait, qui le voit à la télé dans une scène où il s'échappe de prison.
Oui, il s'évade et tout. Et il me le faut.
Et là,
mais il est en prison parce qu'il a refusé
d'obéir à des ordres
de tirer sur la foule. Ouais. Et c'est pour ça. Donc en fait, là, c'est vraiment au niveau du thème et de la motivation du héros, c'est vraiment très différent. Et donc, on a un Schwarzenegger qui est musclé, qui est
Oui, oui, tout à fait. Donc, pas très expressif, hein, comme d'habitude, je dirais.
Ouais, tout à fait.
On ne sait pas exactement ce qu'il veut.
Et c'est une suite de combats man to man, je dirais, comme on dit, quoi, c'est homme à homme. Parce qu'en fait, il n'y a pas une troupe qui le poursuit, il y a un tueur à chaque fois.
Ou un peu boss to boss, quoi. Ouais, un peu comme dans un jeu vidéo. Exactement. Avec des boss assez farfelus, quoi. Assez
complètement farfelus, avec des costumes ridicules, des armes. Ils ont chacun leur arme, le hachoir, la tronçonneuse, l'éclat. Non, je veux dire, c'est vraiment.
Peut-être comme un peu à l'époque des gladiateurs, non? Enfin, je sais pas, j'y étais pas, mais.
Ouais.
Mais ils avaient peut-être un peu leur spécialité aussi.
Au niveau de l'ambiance du film, j'ai trouvé ça très très. Ah, je dis pas que c'est un mauvais film. Hein. Dans son genre, c'est un film qui est assez réussi parce que ça, il y a de l'action. Et puis, mais c'est pas vraiment le scénario ni du Prix du Danger ni du Running Man de Stephen.
Alors,
ça
fait.
C'est pour ça que je trouve ça un peu surprenant. Que Yves Boisset lui ait fait un procès, quoi. Ah,
parce que le ton, tu veux dire, est très différent.
Bah, c'est tellement différent que bon. Bon, à part le fait que ça soit un jeu télévisé où il y a des tueurs qui poussent les vingas, bon, le reste, c'est quand même, l'ambiance, c'est quand même très.
Alors,
très...
en fait, dans les deux, t'as quand même un présentateur assez charismatique, ouais, Piccoli d'un côté, puis je sais plus comment, qui est l'acteur américain, d'ailleurs, que je connaissais pas, là, de ce côté-là, qui est quand même un personnage assez développé.
Alors c'est vrai que je me rappelle que moi, quand je l'avais vu à l'époque, au cinéma, quand il est sorti, je m'étais dit, tiens, ça me rappelle le Prix du Danger. Je m'étais dit comme ça, mais parce que le thème. Mais en dehors du thème, l'ambiance, moi, j'ai revu.
Les deux personnages de présentateurs sont très proches, en tout cas. Peut-être pas les deux.
Alors, il voit ça fait un procès et du coup, il l'a gagné en première instance, il l'a perdu en appel et il l'a gagné en cassation.
Comme quoi, ça faut insister.
Mais pour avoir les sous, je pense qu'il n'y a quasiment rien eu parce que le temps de récupérer tout ça, enfin bon, ça. Ah, bref.
Faudrait savoir, ouais, bon, s'il est, dans quelle optique il a fait ça, mais ça a pris du temps, cette histoire de procès, j'imagine.
Oui, ça a forcément pris du temps, oui.
Bon, après, ça faisait toujours parler de son film, puis la preuve, aujourd'hui, on en parle encore en 2025, donc bon.
On dit que Yves Boisset a fait un procès, mais je pense que c'est plutôt son producteur.
Peut-être, ouais.
Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Mais... Est-ce qu'on enchaîne sur la suite ou est-ce que tu me laisses une petite musique là?
Alors, on va passer donc on passe au Running Man de 2025 et puis on va pas s'écouter un morceau de la bande originale composée par Stephen Price, donc qui est le compositeur toujours attitré d'Edgar Wright, mais on va s'écouter une chanson qu'on entend dans le film parce qu'apparemment on entend beaucoup de chansons dans ce film. Donc là, ce sera Tom Jones.
Keep on hiding. One fine day I gotta be the one to make you understand. Oh yes, I gotta be your man. I keep on running, running from my arms. One fine day I gotta be your man. Everybody's talking about me. It makes me feel so bad. Everyone is laughing at me. It makes me feel so sad. So keep on running. Oh, baby. Keep on running, keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. I gotta be your man. Everybody's talking about me. It makes me feel so bad. So sad, so keep on running, oh yeah. Running from my arms. One fine day, I'm gonna be the one to make you understand.
On continue de courir dans l'imaginaire sur un 5.5 avec Tom Jones. Donc un morceau qu'on entend dans ce Running Man 2025, un film anglais aussi.
Edward Wright. Alors là, j'avais pas lu le roman avant d'aller voir le film, je l'ai lu après. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement ce dernier film de 2025 était très très proche au niveau du scénario du roman. J'ai retrouvé tous les éléments de rencontre, etc. Même si, bien sûr, le film, c'est un film. Donc forcément, on peut pas faire que du texte. Il faut aussi qu'il y ait un peu d'action. Il faut qu'il y ait de la vie. Donc
déjà, quand on voit l'affiche du film, ça a l'air de péter d'un peu partout, quoi.
Voilà, faut que ça pète.
C'est film d'action, quoi. Ouais.
Forcément, c'est un film, donc il y a un peu une surenchère d'action par rapport au roman, même si ce n'est pas qu'un film d'action. C'est aussi un film où il y a de la réflexion sur ce que, parce qu'au début, le début, je ne sais pas si tu ne contrediras pas, Sébastien, quand on l'a vu ensemble, c'est que le début est assez lent. Oui. Toute cette partie avec sa femme, justement, ce qui est bien décrit dans le roman de Stephen King, avec sa femme, sa fille qui est malade et il a besoin d'argent. Là, sa femme lui dit, tu vas pas faire ça, promets-moi que tu vas pas le faire. Et puis finalement, il se rend compte que c'est peut-être le seul moyen d'y arriver, quoi.
Et donc, comme dans le film d'Yves Boisset, en fait.
Oui, c'est ça, mais peut-être en encore.
Il se sent
plus...
un peu obligé pour sortir de sa condition sociale.
Ouais, mais là, dans le film, il voit ça, il y a juste sa femme et lui, alors que là, il y a sa fille qui est malade et ils ont besoin de médicaments dans un monde complètement.
Ils ont vraiment besoin d'argent à ce moment-là.
Et là, on retrouve bien l'univers, le monde de Stephen King, cet univers un peu carcéral des riches d'un côté, des pauvres de l'autre, mais vraiment très, très caricatural dans le sens qu'il y a vraiment une barrière entre les deux mondes et ceux qui...
Dans le film de Schwarzenegger, c'était très caricatural aussi. Hein.
Ouais, mais
enfin, tout était côté très caricatural.
Le côté sociétal, il n'est pas très très évoqué dans le film de Schwarzenegger.
Non, on voit très peu de choses.
Donc en fait, le personnage là, c'est pareil, il est présenté quand même comme une force de la nature, parce que c'est un mec qui est capable de saisir des trucs qui font des chocs électriques sans sourciller. Un peu comme dans le roman, c'est la rage qu'il fait combattre. Quoi. C'est pas forcément parce qu'il a envie lui-même de combattre, mais c'est la rage, le désespoir qui va le faire combattre. Alors, ce film est bien fait, le scénario est bien construit. Moi, j'ai trouvé que les effets spéciaux s'intègrent bien, à tel point qu'on n'y pense pas comme effets spéciaux. Je trouve ça c'est bien parce que on est dans l'histoire et donc c'est bien. Les personnages secondaires sont bien caractérisés.
Les personnages de trackers.
Pas seulement les trackers, mais ceux qui rencontrent les gens qui vont l'aider.
Oui, l'aider, le dénoncer. Ouais.
Alors évidemment, le rôle du network, là, de la télé, est primordial et on voit tout de suite qu'ils vont travestir des choses, etc. Et à tel point que le spectateur, à un moment, il va plus savoir si ce qu'on lui montre est vrai ou pas, quoi. On finit par être un peu dans la peau du héros. On va se dire, attends, on nous a dit ça, mais ils nous ont déjà menti avant. Est-ce que vraiment c'est vrai? Et donc, la triche dans ce film, elle est plutôt présentée par des moyens techniques mis en œuvre pour traquer le héros et la manipulation de ses propos. Et donc, par rapport à la nouvelle qui disait je veux faire durer le truc, là bien entendu ils veulent le faire durer, mais on voit surtout à la fin qu'ils veulent le faire durer, mais il n'y a pas que ça, parce qu'ils l'ont pas en visuel continuellement. Ils ont des caméras drones, etc., ce qu'il y avait pas dans le roman de Stephen King. Mais puis il y a aussi quelques petits trucs d'humour, je crois. Il y a des clins d'œil qui sont là, qui détendent un peu l'atmosphère, comme les la tête de Schwarzenegger sur les billets de banque.
Ah, oui, ça j'ai bien aimé.
Après, Edgar Wright, c'est aussi le réalisateur du dernier pub avant la fin du monde, hein, donc c'est quelqu'un qui apporte de l'humour aussi dans le film de genre, quoi.
Alors après, c'est vrai que il y a plein de clins d'œil. On peut penser, pour la parano ennemi d'État. Tu vois ce que je veux dire, ça.
Ouais, tout à fait.
Pour le présentateur, le cinquième élément, il était bien starbé, oui. Celui-là aussi. Pour la violence, Rollerball, John Wick.
Ah bah oui, Rollerball.
Voilà.
Forcément.
Et donc, il y a cet environnement qui permet de le voir, à mon avis, à plusieurs niveaux. Mais pour moi, on est bien pris par l'action. Enfin, je sais pas, tu t'es pas endormi, Sébastien, quand même.
Non, mais je les trouve quand même des longueurs. Je trouve que le prix du danger, il est beaucoup plus efficace. Tandis que là, on sent que c'est un peu délayé. Mais ce que j'aime bien, c'est... Alors, je voudrais savoir par rapport au roman, dans les deux films Running Man, on a un personnage de femme qui va, en soutien, un moins peut-être ensuite de 2025 au héros. Et est-ce qu'il est aussi développé dans le roman ?
Non, dans le roman. Alors, il y a des personnages qu'on va retrouver. Par exemple, on va retrouver la femme qui prend un otage.
Oui, bah, c'est ça que...
effectivement, on va la retrouver. Mmh. On va retrouver la mère du gars qui l'aide, qui est complètement fanat, complètement dingue.
Oui.
Mais par contre, toute la séquence où il s'échappe de la maison là, en disant « Finalement, je sonne l'alarme parce que je veux absolument combattre les mecs », ça, c'est pas dans le roman du tout, quoi. Ça fait partie des scènes rajoutées dans le film pour que, justement, il y a un peu d'action. Mais... le bluff final du roman, il est assez comparable au film, mais il a une fin très très différente et beaucoup plus noire. Là, film américain oblige, bon voilà, ça se termine quand même pas trop mal, voilà, il y a des trucs rebondissements finaux, etc., que je vous dévoilerai pas. Mais dans le roman de Stephen King, c'est très très noir à beaucoup d'endroits. Un autre exemple, c'est qu'il y a un moment, il fait péter un immeuble, là. Dans le film, là, il fait tout péter, et on lui dit, il a tué plein de gens.
Oui,
c'est possible.
Alors que dans le roman, il essaye de s'échapper, du coup, pour s'échapper, il met le feu à quelque chose, et puis il passe dans un boyau hyper étroit, il manque de rester coincé, il sait même pas s'il va pouvoir s'en sortir, et il se dit, et si le gars saute, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, on sent qu'il n'a pas vraiment prémédité toutes les conséquences de ce qu'ils font, de ce qu'il va faire, quoi. Et après, évidemment, le coup de la télé, c'est toujours de récupérer ce qu'il a fait pour dire aux gens, regardez, ce type, il est infernal, il est méchant, etc. Non, mais je pense que moi, ça m'a intéressé de relire tout, quoi, de relire la nouvelle, de revoir le film de Boisset, de relire. De lire, parce que je le connaissais pas, le roman de King, et de revoir les deux films pour pouvoir comparer tout ça. Et voilà, donc c'est des choses différentes qu'il faut apprécier, finalement.
Alors, est-ce que le Running Man de 2025, il est contemporain de son époque?
Oui.
Alors, le Running Man de 2025, il est un petit peu futuriste, parce qu'il y a des tas de trucs du style de détecteur d'ADN en atmosphère,
oui.
les drones qui volent un peu comme dans... Non, c'est quand même assez futuriste.
Est-ce que derrière, il y a une réflexion, alors probablement sur le voyeurisme déjà, qu'on a eu un petit peu dans toute cette série, et puis sur la société de 2025?
Alors oui, parce que les personnages qu'il va rencontrer, notamment... Le groupe de noirs là dont la femme est un peu dont la fille est malade aussi, etc., qui vont l'aider.
Oui.
Effectivement, là on voit bien la différence de vie. Enfin, mais même lui au début dans son appartement, etc., sa femme qui manque de se prostituer, etc., et tout ça. Donc il y a vraiment mais alors c'est assez manichéen, quoi. C'est vraiment, il y a les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, et puis je crois qu'on sent pas vraiment qu'il y a une classe intermédiaire.
Non.
Et en 2025, on a les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a du voyeurisme, il y a de la manipulation. Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé dans ce film? Dans ce dernier film?
Alors, est-ce sur les réseaux sociaux? Comme c'est essentiellement basé sur la télé, en fait,
donc finalement, gens sont quand même à fond sur leurs écrans.
Le réseau, c'est l'écran, quoi.
D'accord.
je me souviens pas qu'on ait comme ça des gens qui vont commencer à chatter en disant attends, il est là.
Bon, y en a qui sont tellement accros qu'on leur offre même des jeux comme dans le Running Man de Schwarzenegger.
Là,
ça les rend addicts.
Ceux qui sont, mais qui font qui font des jeux sur le plateau et on offre un jeu.
C'est
vrai qu'il y a des caricatures d'émissions de télé d'aujourd'hui qui sont bien entendu.
Ouais. Oh, finalement, présente. Mais la télé qui n'a pas changé tant que ça en 40 ans, quoi.
Je pense qu'il y a 40 ans, on vendait pas forcément des jeux clés en main avec, comme on fait maintenant, avec éclairage, musique.
Ouais,
non, il y avait des jeux, c'est vrai.
Oui.
Mais.
OK.
Là, aujourd'hui, on a des copies conformes de jeux américains en France qui, avec la même chose au niveau décor, musique. Ce que doit dire le présentateur, comment il doit faire durer le suspense, etc. C'est des trucs clés en main, quoi. Je suis pas persuadé que ça existait il y a 40 ans, ça.
Ok. On va parler livre-jeu avec Sébastien dans quelques minutes, mais d'abord une musique de Gladiateur. Mais alors, les Gladiateurs de l'an 2072. Alors, version française, 2072, Les Mercenaires du Futur, un film de Lucio Fulci, début des années 80. Au Québec, ça s'appelle Les Centurions de l'an 2001. Oui, tu vois, ils ont vu moins loin. Puis les Anglais aussi, je crois que c'est Les Gladiateurs de 2033. Donc tout le monde a un peu son idée de quand ça va se passer, mais normalement, dans le synopsis de ce film italien, c'est Rome en 2072. Et donc, il est question d'une émission de télé qui relance les gladiateurs. Et cette fois, ce sont des gladiateurs à moto. Alors, ils sont pas dans des chars. Qui sont dans une arène et puis il se passe plein de choses. Aujourd'hui, c'est un peu considéré comme étant un AV. Donc effectivement, ça aurait été sympa que Jean-Luc vienne nous en parler. Mais en tout cas, moi, j'adore cette BO de Riz Ortolani. Bon, Sébastien, ton jingle est un petit peu perdu. Il est là.
Le pauvre.
Hop. Il est où ? Voilà.
Alors, je vais vous parler de Chasse à l'homme, un titre donc d'une collection qui en connaît quatre, quatrième dimension. Alors, ça a été écrit par Frédéric Blaillot, qui en a écrit en fait quatre pour la collection Histoire à jouer, car ça fait partie de la collection Histoire à jouer.
On reconnaît un peu les visuels de cette collection, collection française, mais qui date des années 80 ou 90.
Voilà, quatrième dimension, mais ça a été réédité par Posidonia, comme tous les Histoires à jouer, hormis certains, mais bon, je veux pas m'étendre.
Et Posidonia qu'on profite pour les re...
Oui, les débugger, s'il y a besoin, voire de réadapter un peu les règles. Alors, j'ai une affection particulière en fait pour l'auteur, comme vous pouvez me retrouver, mais là sous les traits de rédacteur au marteau et l'enclume, le numéro 10 spécial Sherlock Holmes, parce qu'il a écrit en fait à plusieurs Sherlock Holmes, 3.
Ah oui.
Et j'avais écrit un article sur le mystérieux docteur Bacon.
Voilà. Ok. Le Marteau et l'Enclume, donc un magazine qui n'existe plus là.
C'est devenu maintenant, c'est le dé du chaos, voilà. Et okay. C'est toujours voilà sous l'égide de Benjamin Berger.
On en parlera prochainement.
Au passage. Alors Frédéric Blaillot, je trouve quand même qu'il s'est amélioré par rapport à ses premiers livres-jeux. Dans celui-ci, en fait, Patrice, je pense que c'est quand même un classique, on va dire, en sujet de l'ASF. En fait, le personnage qu'on va jouer, Dennis Dexter, il est l'inventeur d'une arme bactériologique, la bactérie AX-13.
Ça peut faire mal, ça.
Malheureusement, elle va, on va dire, se propager dans une base militaire.
Sinon, ça serait pas drôle.
Et le risque, c'est qu'elle s'étende après sur tout le territoire américain, parce que ça se déroule aux États-Unis.
Il n'y a pas eu un film comme ça sur une base
militaire. C'est bien possible qu'il y ait eu beaucoup de films sur ce thème.
Alors, en fait, Patrice, le personnage aussi va avoir un peu le remords et va aussi créer une bactérie macrophage pour pouvoir donc manger la mauvaise bactérie. Est-ce que ça te rappelle des histoires ou...
Alors, est-ce que tu joues le rôle d'une bactérie dans ce livre?
Ah non.
Non. Donc dans l'histoire de bactéries, de pandémies, etc. Il y en a eu tellement, y compris.
Et c'est assez rare qu'ils aient le temps de. Enfin, des fois, on trouve le vaccin contre le virus, mais alors une bactérie contre une bactérie.
Ouais, ça me dit rien. Non.
Moi non plus.
Eh ben, t'as des trucs à citer, non? Sinon, sur ce sujet, en dehors de.
Alors, on a. Selon Gauthier Wendling, j'ai pas eu le temps ainsi que Patrice de vérifier, l'auteur Frédéric Blaillot se serait manifestement inspiré du lendemain de la machine.
Vieux roman de SF.
Francis Gérard, quand tu m'as dit ça, je me suis rappelé du nom de l'auteur, je sais même plus si je l'ai lu, je l'ai quelque part dans ma bibliothèque, mais je sais plus de quoi ça parle. Okay. Mais je suis pas sûr que ce soit ce thème-là. Bon. Il semblerait que ce soit un gars qui débarque dans le futur et qui fasse
dans un futur dévoré par
on reste sur la piste parce qu'en fait là je vois un peu ébaucher la en fait c'est un livre qui se divise pour moi en quatre parties pour la structure. Alors toute la première partie, on est dans la base militaire de Sternville, on apprend la nouvelle à la base de l'ANPLA. La bactérie s'est propagée, les militaires sont contaminés et c'est une bactérie qui rend dépressif jusqu'à se tuer.
Ah oui, d'accord.
Donc, notre scientifique va vouloir justement aller aider ces militaires. Alors, ce qui m'a amusé, c'est que avant de faire justement un saut dans le futur, on va avoir un accident d'automobile. En fait, c'est tout
raconté
dans le quatrième dodo. Bon. Ce qui m'a amusé, c'est que pendant toute cette première partie, tu as des tests, comme dans les livres-jeux. Bon, c'est des tests de capacité, on lance le dé, on a un seuil de difficulté qui sont assez élevés, mais je me suis rendu compte, Romain, qu'en fait, l'auteur, il s'est pas cassé la tête, c'est qu'on peut pas perdre pendant la première partie. En fait, tu peux faire ou non les tests, on te dit, écoutez, tout compte fait, vous avez réussi à franchir la grille parce qu'on va nous enfermer, parce qu'on est pris pour un fou. On va même avoir un accident terrible d'automobile, mais on va se réveiller dans le futur. Il est impossible de perdre les amis du 101.5.
Ah enfin, un livre-jeu qu'on ne peut jamais perdre. C'est bien, première partie.
Et là, on va faire un saut dans le futur parce que ça se déroule à la base en 1962, donc en pleine guerre froide, et on se réveille en 1992.
92, c'est de c'est de l'Uchronie, ça.
Et là, malheureusement, la bactérie, elle a fait des ravages. Mais là, j'arrive à la deuxième partie où on va donc soit aller du côté de l'ANPLA, pour dire je vais aller vraiment à cette base. Je n'ai pas pu y arriver parce que j'ai eu un accident en cours de route. Je peux aussi revenir un peu en arrière et aller à Creston. Enfin, on a deux directions.
Ok.
Alors là, le jeu commence un peu à montrer son museau. Et ça permet justement à l'auteur de dire, vous allez pouvoir rencontrer, par exemple, un gang de rôdeurs motorisés.
Ah, on tourne un peu au post-apo, là.
Notre ami Jean-Luc, le post-apo, mais un peu fauché, où on rencontre le chef Francis, on va se battre avec lui. On a une chaîne qui nous le relie à lui, puis on a une matraque dans une main, donc on doit se battre. Ça m'a rappelé un peu un nanar.
Ouais, par exemple, 2072, les mercenaires du futur, par exemple.
Que ces références-là, il y a même, je vais y revenir après, d'autres références, mais qui sont plus malines. À Freddy Krueger.
Ah ouais.
Et je veux dire pourquoi. Et sinon, on peut rencontrer aussi une aveugle. Alors, c'est marrant parce que, en fait, le personnage, bah, il a une sale réputation. Parce qu'on sait, en fait, c'est...
Ah, en gros, tout est de sa faute, quoi.
Voilà, c'est Dennis Dexter qui a fait en sorte que tous les États-Unis, bah, s'est mis sans dessus-dessous. Et à cause de lui, bah, il y a l'épidémie, donc...
Tout le pays lui en veut, quoi.
Alors que dans le lendemain de la machine, c'est à propos d'un truc nucléaire que le gars est maudit. Pas du tout, pas un truc bactériologique.
Et donc, en fait, son visage, bah, il est partout. Il est dans les manuels. À un moment donné, il se voit dans un manuel d'histoire. On dit, bah, c'est le machiavélique scientifique qui a voulu se venger, en fait, parce qu'il n'était pas aimé.
Et donc, c'est l'homme à abattre, en fait.
Voilà. Et on le voit
même.
C'est
l'ennemi public numéro un.
Voilà, à la caméra, parce que quand il arrive dans une ville un peu plus loin dans l'histoire, il se voit mis en scène dans un dessin animé où, en fait, il va même aller tuer des petits-enfants avec ses méchants robots.
C'est le croque-mitaine.
Voilà, le croque-mitaine comme dans Freddy Krueger. Et ça permet à notre ami Blaiot de placer quelques références dans les griffes du croque-mitaine, le retour de croque-mitaine, des métrages qui font référence aux griffes de la nuit et au retour de Freddy. Donc la deuxième partie, ça va nous permettre un peu d'explorer un petit peu l'univers.
Sachant qu'on est seul contre tous, donc si je comprends bien.
Voilà, mais on va vite apprendre à justement à se méfier, parce qu'au début, on découvre en fait. Et puis, on va dire que la troisième partie, ça va nous entraîner dans la ville de Strindberg, une agglomération, on va dire, importante américaine. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut à un moment donné faire le choix de changer de vêtements, parce qu'on a des vêtements en lambeaux par rapport à l'accident qu'on a eu. On peut avoir de nouveaux vêtements ou pas, et à partir de là, les rencontres ne sont pas les mêmes en ville, et on se rend compte que quand les personnages, les habitants sont dépressifs, ils peuvent avoir des masques jaunes avec des sourires, c'est les fameux smiles.
Ouais,
du coup, c'est des masques en carton, et si on nous reconnaît, il va falloir aussi se déguiser. Parce qu'effectivement, on est la cible.
Ce qui est assez facile si toute une partie de la population porte des masques.
Et en plus, là c'est vraiment très intéressant, c'est un peu comme dans Running Man, on dénonce quand même la nouvelle société qui est mise en place. Alors Frédéric Blaiot, il a l'art aussi de nous amener des informations au travers de petits paragraphes. On va apprendre en écoutant un orateur qui dit voilà, on est contre les chevaliers de la Croix Verte, le nouvel ordre, qui est censé éradiquer le fléau.
Ouais.
Mais qui en même temps tient la population sous son contrôle avec les fameuses petites gélules bleues, des antidépresseurs, pour calmer leur dépression. Donc en fait, qui est vraiment le méchant dans l'histoire, c'est pas tant le scientifique qui a voulu en fait se dire bah non là il faut que je crée un remède. Bah c'est ceux qui ont un peu
profité de
ça pour tenir en laisse une population qui est trop dépressive. Et la dernière partie, donc on a quatre parties, c'est la toute dernière partie dans Strindberg. On a la partie qui va se dérouler dans la centrale d'épuration d'eau. Alors c'est évident, ça sent des kilomètres que on a en fait la bactérie macrophage dans l'éprouvette. À un moment donné, on se la fout dans le nez pour dire ah, ça y est, on n'est plus dépressif. Et là, j'ai l'impression que le héros, à ce moment-là, quand j'étais dans la lecture, il va vouloir la mélanger dans l'eau. Pour essayer de faire boire à tout le monde la potion miracle.
Comme dans Dreamcatcher de Stephen King.
Mais je vous dirais pas à ce moment-là, ça se corse de plus en plus. On a des tests où il va falloir vraiment, il y a des tests assez difficiles. C'est pour ça que je vous conseille de démarrer avec la capacité physique à 7, la capacité manuelle à 7, la capacité de communication, on n'arrive pas vraiment à communiquer.
Ouais, surtout si tout le monde est contre soi.
Si on rencontre une aveugle, ce qui a été mon cas, là c'est un peu plus facile. Ouais, okay. Mais attention à ne pas lui révéler peut-être votre nom.
Oui.
Et on a la capacité de perception, alors inspirée un peu de Sherlock Holmes, qu'on avait dans les Sherlock Holmes histoires à jouer, qui va permettre de récolter des informations, de la connaissance, et aussi de nous sortir de mauvais pas dans la ville de Strindberg. Alors ce qui est dommage, c'est que les règles de jeu sont un peu datées. Et ce que je reproche à Frédéric Blaiot, c'est pas vraiment la très grande linéarité, c'est un peu de brasser du paragraphe, pour dire brasser du l'air. À un moment donné, on a quelques paragraphes, notamment au début, on a trois choix romains, mais en fait, c'est les mêmes finalités.
Ouais.
À quoi ça sert? À quoi ça sert, mon gars? Mais à des moments, il se réveille, et comme pour le mystérieux docteur Beacon, c'est à la fin où tout devient sans sas, on est pris dans l'histoire, on se sent vraiment, là, du coup, traqué, parce qu'en fait, on va vite nous repérer, aux abords de Strindberg, donc c'est vraiment la chasse à l'homme. On est au courant que le croque-mitaine est de retour. Et là, vraiment, il y a une tension et ça va vite se finir, en fait.
Donc, c'est comme dans les films, quoi. Quand il n'y a pas d'action, tu t'endors. Ouais.
Et, voilà, et je finirais que voilà, ça aurait été bien qu'il y ait des petits mini-jeux, mais je vous présenterai d'autres livres de la collection.
Ouais.
Où là, en fait, les auteurs historiques, ils ont mis des mini-jeux en plus. On pouvait avoir des petits labyrinthes, où à un moment donné, on a les chevaliers de la Croix Verte ou les commandos de la Pureté, les bras armés, en fait. Là de la nouvelle politique qui nous poursuivent et sous forme de mini-jeux. Mais dans tous les cas, c'est un bon récit vraiment uchronique, comme dit Patrice, et qui aurait pu aussi figurer, comme disait un critique sur La Taverne, pour le reprendre, il m'excusera si je ne cite pas son nom, son pseudo, qui aurait pu faire un épisode de La Quatrième Dimension, donc Paris réussi, pour Frédéric Blaillot, qui signait là son dernier avant que le mystérieux docteur Bacon ne soit réécrit grâce à l'aide d'un des frères Le Joyeux pour ressortir toujours chez Posidonia.
Ok, très bien. Bon, ben moi je ne vais pas avoir le temps de vous parler de jeux de rôle, mais le jeu dont je vous parlais sort en version française dans deux mois. Donc on aura le temps d'y revenir. On s'était dit qu'on allait proposer quelques idées de cadeaux de Noël dans cette émission. Avant, moi, je voulais quand même, rubrique agenda, vous signaler le week-end prochain au Château d'Angers, c'est le retour de la merveilleuse boutique, je me rappelle plus trop comment ça s'appelle, l'échoppe, la merveilleuse échoppe de Noël, oui. Quelque chose comme ça. Cette année, le thème, c'est un peu la science-fiction, je sais pas si vous avez vu les affiches en ville, mais on voit un spationaute devant le Château d'Angers. Vendredi soir, samedi, dimanche... un marché de Noël d'artisanat avec notamment des animations. Il y a l'Anjou Saber Club qui sera là pour faire des démos. Je pense qu'on pourra aller faire du sabre laser avec eux. Il y a une expo de Lego Star Wars. Et puis, il y a un concert de Battle Drum Galactica. Des gens qui font des percus et ils ont des lumières qui clignotent de partout. C'est tout ce que je peux vous dire.
C'est comme dans le film de Schwarzenegger, Running Man.
Oui, c'est vrai.
Le gars qui était un...
Alors, vos idées cadeaux, là, les gars ?
Il y a l'excellent artbook de Philippe Casa qui vient de sortir.
Donc voilà, un des parrains de l'association Imaginaire.
Sauf que je peux pas vous le montrer parce que,
là, on le voit, là, sur la caméra, là.
Ouais, hein. Ouais.
C'est un beau bouquin où il y a toutes ces illustrations.
Donc Casa, période bande dessinée,
à tout,
métal
la
hurlant.
Bande dessinée, les couvertures, les machins, les affiches d'Imaginaire.
Même du jeu de rôle, hein. Ah oui, quelques dessins qu'il a fait pour Imaginaire.
Les œuvres personnelles.
Et donc, c'est facilement trouvable, c'est édité par lui, non ?
Centre National du Livre.
Ah, bah non, pas vraiment.
Nesty Vecnen, pardon.
Ah, bah d'accord, ok.
Nesty Vecnen, mais. Non, j'aurais.
Ok. Donc, belle idée, cadeau.
Ah, ça, oui, si on aime
pour les fans d'illustration.
Si on aime Casa, c'est un gros bouquin.
Ouais, même si on le connaît pas trop. Sébastien, non ? Non, t'as pas dit des cadeaux ?
Toujours.
Ouais. On en parlait tout à l'heure.
Le fameux dé du chaos dont j'ai jamais eu l'occasion encore de vous parler en détail, ça viendra avec mon ami Gilles. Alors, on le trouve à 14,90€ sur Amazon ou sur le plumier des chimères, comme Posidonia donc, qui est partie prenante pour la distribution. On a deux aventures jouables et on a aussi de très bons articles critiques, de nouveaux livres-jeux auxquels on ne penserait pas. Et justement, donc, l'idée de Benjamin, de moi-même et d'autres rédacteurs, c'est de vous amener à découvrir de nouveaux livres-jeux, de nouvelles collections, autres que Gallimard, et qui n'ont pas la chance de figurer
d'avoir
tout
l'exposition
temps
médiatique
dans les rayons des librairies.
Mmh. Et on retrouve, c'est une interview de toi ou c'est des interviews que tu as fait dans cette émission ?
Alors, on me retrouve, une partie donc a été reprise des extraits de mon interview de H. Lenoir.
Ouais.
Voilà.
Hélène Lenoir qui avait gagné le prix du livre-jeu en 2024, c'est
et
ça ?
On en parle avec Reine de l'Ouest et elle continue, je vous en parlerai prochainement, d'écrire de merveilleux livres-jeux.
Ok, et ben moi j'avais aussi une collection de romans de jeux de rôle, mais vraiment format mini. C'est la collection Rabbit Hole chez Arcane Asylum, Trou de Lapin. Je préfère l'appeler Trou de Lapin. Il y a 7 petits jeux de rôle qui sont sortis. C'est entre 10€ et 15€. Je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler.
Et
je vais peut-être aller, en parler dans les voix du Scénarium aussi sur Radio G. On se retrouve dans 2 semaines.
Oui, et pour parler d'Avatar, entre autres.
Voilà, c'est vrai, Avatar 3. On écoutera ton morceau Avalon Bloom une autre fois.
Oui.
Salut !
Salut !
À bientôt.
www.radio-g. radio-g.fr.